Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Je rappelle que vous pouvez le réécouter sur internet à cette adresse françaisfacile.rfi.
Radio G 101.5 FM.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Nouvelle semaine, nouveaux invités et nouvelles agitations locales. On va pas se le cacher, on n'arrive pas à faire de la place pour tout le monde, tellement il se passe de choses ici à Angers. L'info positive sur le 100.5 FM de 18h10 à 19h tous les soirs du lundi au jeudi. Demain, programme de la semaine. Demain, nous serons avec le centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné. Et puis on va également parler en deuxième partie d'émission de la terramation. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à venir à partir de 18h10. Mercredi, on va parler du SCO hockey. Alors oubliez, c'est pas les Ducs d'Angers sur la glace, c'est bien le SCO hockey et on est sur le gazon. On va aussi faire un petit tour par l'enquête 1920 avec la compagnie des passeurs de l'impalpable. Et jeudi, si tout se passe bien, on est avec la commune de Loire-Authion, partenaire de l'émission. Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer cette semaine qui démarre? Eh bien, on va parler mainstream music. Et oui, ça fait plaisir. Même sur Radio G, on aime les Gims, Dua Lipa ou même la K-pop. Et la K-pop, lui, il en est tellement fan qu'il va ouvrir un Pop Hits. C'est un concept store. C'est Antoine Champion qui a décidé d'offrir un lieu 100% musique actuelle et merchandising à Angers aussi, avec tous les produits dérivés qui vont avec. Ça ouvre aussi rue des Lys le 19 octobre. Il est avec nous ce soir pour nous expliquer tout ça. On va faire du vélo également en prenant des nouvelles de William qui est en plein tour du monde, un road trip à vélo. Et on n'oublie pas, je sais pas ce que j'avais marqué, mais on n'oublie pas en tout cas, on aura aussi En Mouvement Malgré la Contrainte, le podcast des SISM, les semaines d'information sur la santé mentale, partenaire aussi de Topette. C'est Joséphine Régnier, psychologue en milieu carcéral, qui était avec nous la semaine dernière, qui nous propose un petit slam. Voilà, Topette sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant toute chose, un point sur l'actu ce soir avec toi Yaël. Bonsoir Yaël.
Bonsoir.
Un feu d'appartement en plein cœur du centre-ville d'Angers hier.
Oui, peu après 3h du matin ce dimanche 13 octobre, un incendie s'est déclaré au-dessus de la discothèque Le New Yorkais. Situé 5 rue Maillet, un appartement se serait enflammé, nécessitant l'intervention de 44 sapeurs-pompiers. Selon les secours, une centaine de personnes ont été évacuées, dont les clients de la discothèque qui ont pu sortir sans dommage. De leur côté, les deux occupants de l'habitation n'ont pas été blessés, mais ont inhalé de la fumée. Ils ont été transportés au CHU d'Angers. Les pompiers étaient encore sur place hier matin pour surveiller une éventuelle reprise du feu. Une enquête doit être menée afin de déterminer les causes de cet incendie.
Traverser la France en vélo, de la Normandie à l'Atlantique, c'est désormais possible, Yaël.
644 km de Ouistreham à La Rochelle, c'est l'itinéraire proposé par la Vélo Francette. Depuis son inauguration en 2015, ce parcours du tourisme cyclable propose à ses usagers de traverser 7 départements et 3 régions. En passant par la Suisse normande, le chemin du halage de la Mayenne ou encore la levée de la Loire, la Vélo Francette fêtera ses 10 ans en 2025. L'occasion de dresser le bilan des 916 000 sorties cyclistes que comptabilise le parcours. Principalement fréquentée par les habitants des départements, la Vélo Francette attire aussi des touristes étrangers, notamment britanniques, néerlandais, allemands et belges. Un bilan de fréquentation donc satisfaisant qui continue d'attirer une grande diversité de cyclistes.
Netherlands Outland Founded Fits, une plongée sous l'eau à la collégiale Saint-Martin maintenant.
Et oui, depuis le 21 septembre dernier et jusqu'au 26 janvier prochain, la collégiale Saint-Martin propose une nouvelle installation à ses visiteurs. Réalisée par la compagnie Lucie L'Homme, cette exposition temporaire se prénomme Profondeur, une œuvre immersive et sensorielle qui transforme la plus vieille église d'Angers. Nous sommes à la fois sous l'eau et sous le cosmos, nous traversons des états organiques à travers des images d'eau et de volcans, explique Elisa Fache de la compagnie Lucie L'Homme. L'occasion d'admirer des projections lumineuses et la mise en mouvement, le tout au rythme de la musique.
Excusez-moi pour cette envolée néerlandaise au cours du Flash Info. Merci beaucoup Yael. Est-ce que toi tu connais la K-pop? Tu aimes bien la musique actuelle ou pas?
Alors je suis un peu, mais je connais pas du tout.
Reste avec nous justement, puisqu'on va recevoir notre invité de ce soir qui est en lien avec ce sujet.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et c'est avec toi, Nolwenn, que ça se passe pour mijoter, poser des questions à notre invité de ce soir.
Exactement, et ce soir on est avec Antoine Champion, bonsoir.
Bonsoir.
Ex-marketeur et futur gérant du futur Pop It, un concept store qui va ouvrir au 6 rue des Lys le 19 octobre prochain. L'idée c'était d'offrir un lieu entièrement dédié à la musique actuelle et à ses produits dérivés. Tout te vient de ta passion dévorante pour la K-pop. Tu pourras nous raconter ton histoire avec celle-ci juste après et rappeler aux non-initiés ce que c'est. Mais avant tout, Antoine, qu'est-ce que c'est Pop It? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept?
Ouais, alors Pop It, c'est un magasin, on pourrait dire un disquaire un peu nouvelle génération, où on va pouvoir y trouver des vinyles, des CD et des produits dérivés. On parlait de merchandising, donc ça va être des tasses, ça va être des porte-clés, des choses comme ça, qu'on peut retrouver sur le thème de la musique. Donc il va y avoir aussi bien du AC/DC que du Lady Gaga, en passant par des produits plus de K-pop, donc la musique coréenne, notamment des light sticks par exemple, les bâtons lumineux qu'on emmène dans les concerts.
Merci pour la traduction.
Pour parler un petit peu du lieu, à quoi ça va ressembler visuellement?
Alors c'est pour être un peu différent justement des autres disquaires, puisqu'on est complètement complémentaires avec les autres disquaires. Moi c'est plutôt neuf on va dire, avec un magasin qui a un mur jaune parce que mon logo il est noir et jaune. Donc quelque chose d'assez pétant qui met du peps entre guillemets, qui a raccord du coup avec la musique pop. Il y aura tout aussi un mur derrière moi avec toutes les dates de concerts sur Angers ou sur la musique actuelle. Et aussi les concerts, les gros concerts qu'il peut y avoir à Paris ou ailleurs. Il y aura aussi une télé pour regarder des clips, parce que vu que je suis sur la musique plutôt mainstream, comme tu disais tout à l'heure, ils ont tous des clips et on va pouvoir voir du coup ce que proposent les artistes via les clips, et je proposerai du coup les CD, les vinyles dans le magasin.
Donc tu en parles, c'est plutôt de la musique actuelle et internationale. C'est quel style exactement? Ça va de quand à quand?
En fait, c'est assez large. Souvent, je dis que je vais vendre de la musique pop dans le sens populaire. Donc, ça peut aller aussi bien du métal avec Rammstein, en passant par de la vraie pop du Lady Gaga, mais aussi il y a un groupe angevin qui s'appelle Michel et les Garçons, que je crois que vous connaissez, qui est plutôt du rock, pop rock un peu à l'ancienne. Donc, c'est finalement assez large. Mais quand je dis actuel, c'est des artistes du coup qui sont encore en activité aujourd'hui. Trouver du Michel Sardou, du Dalida, il y aura peut-être un ou deux, mais il n'y aura pas l'ensemble des albums.
Oui, ça c'est une petite erreur, une petite imprécision que j'ai commise en présentant tout à l'heure, c'est musique actuelle et pas forcément que mainstream, puisque Michel et les Garçons, ce sont des musiques actuelles, ouais. Mais du coup plus confidentielles on va dire.
C'est ça, et j'aime bien quand même mettre en avant la scène locale ou des artistes nouveaux, mais toujours quand même plutôt sur la pop, sur des choses on va dire un peu chantant ou un peu musicales. Va y avoir du rap par exemple, mais le rap plutôt du Big Flo Oli, Orelsan, des choses plutôt musicales que du rap bien dur, où là je suis peut-être moins connaisseur, comme le rock de garage, où pareil ça c'est plus pour les connaisseurs, il y a d'autres disques arrangeants qui font ça très bien.
Et donc on va y retrouver aussi tout l'univers associé à ces musiques, c'est-à-dire il y aura des goodies, des porte-clés.
Ouais c'est ça, des porte-clés, des tasses, des posters, des puzzles, des badges aussi, tout du coup sur ces différents artistes. L'idée c'est vraiment de se dire que quand on cherche un objet sur un artiste, eh ben on peut aller voir chez Pop It s'il y a. Je veux aussi avoir tout ce qui est figurines Funko Pop, les petites figurines à collectionner. On en trouve beaucoup dans des magasins de jeux vidéo ou à la Fnac, mais finalement sur la musique on sait jamais vraiment où les trouver. Et l'idée, c'est Pop It, justement, pour aller retrouver assez facilement. Donc, il y aura du Blackpink, du...
Licence officielle ou pas? C'est l'idée?
Tout est officiel, ouais. C'est vraiment des produits qui sont sous licence officielle. J'avais contacté quelques créateurs à une époque, mais pour l'instant, je reste vraiment sur que des produits officiels. Et là, je suis encore à la recherche vraiment de produits, de concerts, vraiment de merchandising pur et dur, détournés. Ça, j'en ai un peu moins. Mais par contre, tous les produits sont sous licence officielle.
Et qui peut être intéressé par ce concept store? C'est visé pour qui?
Alors, je vise le plus largement possible, on va dire, mais c'est vrai que c'est plutôt jeune. Enfin, quand je dis jeune, ça peut être assez large, hein, de 20 à 40 ans. 40 ans, on est encore jeune, on va dire. Moi, j'ai 35. Après, c'est vrai que sur de la musique, par exemple, coréenne, je vais avoir le fond du magasin, du coup, qui sera spécialisé sur la K-pop. Là, on est plutôt chez des jeunes lycéens où commencent à grandir les premiers qui écoutaient de la K-pop. Ils ont la vingtaine, trentaine aujourd'hui, en grande majorité. Et du coup, c'est quand même assez large, mais plutôt jeune. C'est ce que je dirais.
Est-ce qu'il y a d'autres concept stores en France comme ça qui t'ont donné justement l'envie, qui t'ont inspiré? Est-ce qu'on en retrouve d'autres en France?
Alors justement, si je crée Pop It, c'est parce que je trouvais pas un magasin qui me ressemblait. Et quand je vais chez les disquaires, moi qui suis fan de musique, qui écoute de la musique tout le temps, bah chez les disquaires, je me retrouvais pas forcément. Parce que les disquaires, ils sont très spécialisés sur leur domaine. Ça peut être de l'électro, ça peut être du rock, ça peut être assez large. Mais finalement, j'arrivais pas à trouver les artistes que moi j'ai l'habitude d'écouter. Et du coup, Pop It, c'est justement là où je me suis dit, bah, on va retrouver tous les produits qu'on entend à la radio, qu'on peut retrouver ailleurs, qu'on peut trouver à la Fnac, mais chez un indépendant finalement. Puisque la Fnac, c'est assez large, il n'y a pas vraiment de conseils. Si je vous parle, par exemple, de Colt, un groupe belge qui commence à être connu, on va dire, bah, à la Fnac, ils vont peut-être l'avoir aussi. Mais finalement, on va pas vous dire, bah, ça ressemble à quoi comme autre artiste, alors que c'est la pop française qui marcherait très bien, qui passe pas encore en radio, mais qui pourrait.
Voilà. Et du coup, l'ouverture, c'est le 19 octobre, c'est ce samedi. Est-ce que tu as prévu quelque chose de spécial pour l'ouverture? Qu'est-ce que tu vas faire?
Alors pour l'ouverture, j'attends encore une confirmation, mais normalement avec le bubble tea en face, il y aura un petit truc qu'on va faire ensemble. Sinon, il y aura quelques petits trucs à manger. On va sûrement faire une ouverture un peu avec un ruban, comme si on faisait une vraie ouverture d'un nouveau lieu, parce que ce sera la vraie ouverture. Et après, bah, j'ai pas mal d'amis qui vont venir. Il y aura un peu de décoration. Et, il y aura aussi des flyers. La mairie m'a autorisé à distribuer des flyers dans la rue pour me faire connaître justement et bouger un peu.
Est-ce qu'il y aura Dua Lipa, non, de prévu au programme?
Non. Pour mon inauguration, là, il y aura une soirée avec des partenaires, mais quand vraiment, ce sera plutôt dans un mois. Il y a un groupe qui viendra qui s'appelle Filante. Je sais pas si vous connaissez, un groupe angevin de 3 personnes. Qui va venir chanter normalement mon inauguration, mais là pour l'ouverture, déjà fallait que je gère toute la gestion des livraisons, etc. Donc là, je reste plutôt sur des petits trucs à manger, et, un peu de déco pour marquer le coup.
Pop It, le concept store qui vous plonge littéralement dans l'univers des musiques actuelles au sens large, mainstream ou même plus localisé, on l'a bien compris. Et quand je parle d'immersion, voilà, on peut vraiment, on rentre dans l'album, littéralement. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné quand tu l'as décrit tout à l'heure, Antoine. On continue à s'intéresser à Pop It et puis aussi à toi. Pourquoi tu fais tout ça? Et on va d'abord faire une pause musicale avec une programmation adaptée. Je connaissais pas, c'est Blackpink et c'est du. Voilà, on écoute sur le 101.5 FM.
Test me.
Blackpink, du, je sais pas qui est l'auteur, qui est le titre, mais en tout cas, c'est, on est bien sur le 101.5 FM et on diffuse ça puisque c'est ce que adore Antoine, la K-pop qui a inspiré son, en partie, son pop hit, son concept store qui débarque sur Angers, rue des Lys, le 6 rue des Lys, le 19 octobre. Et Nolwenn, tu voulais justement interroger Antoine par rapport à cette passion débordante, dévorante qu'il a pour la K-pop, je crois.
Oui, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient ton intérêt pour la K-pop ?
En fait, à la base, j'étais pas fan forcément de K-pop, j'étais plutôt fan de J-pop, donc de la musique japonaise. Et en fait, c'est un peu bête, mais ma génération de 35 ans, on va dire, on écoutait la musique japonaise quand on a eu toutes nos périodes manga, etc. au collège. Et aujourd'hui, on va dire que les lycéens et les collégiens, ils sont plutôt sur la musique coréenne que du japonais. Et ce qui différencie le coréen du japonais, c'est que les japonais, ils étaient quand même assez restreints dans leur pays. Ils font de la musique pour leur pays, ils s'internationalisent pas trop. Alors que la K-pop, c'est complètement l'inverse. Ils ont vraiment un modèle où leur but, depuis que Psy a explosé à l'international, Gangnam Style, ils veulent vraiment s'internationaliser, faire de plus en plus de choses à l'international. C'est une sorte de soft power où ils veulent montrer ce qu'ils savent faire, ils veulent montrer qu'ils peuvent faire des choses. Et du coup, bah, de la K-pop, maintenant, il y en a plein, il y a même beaucoup, beaucoup de groupes. Et finalement, moi, je les compare des fois un peu aux nouveaux boys bands quand on était jeunes aussi, et To Be Free, Alliage, tout ça. Maintenant, les nouveaux boys bands, les nouveaux girls bands, c'est plutôt de la K-pop. Et là, ce qu'on a écouté, Blackpink, justement, c'est un girls band, mais finalement, qui est peut-être un peu plus badass que nos Spice Girls de l'époque.
Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers souvenirs en lien avec la K-pop ? Ça remonte à quand ?
Quand est-ce que ça revient? Alors, parce que du coup, la J-pop, ça, je m'en souviens vraiment, ma période manga où j'ai commencé à écouter une chanteuse qui s'appelle Ayumi Hamasaki, dont je suis encore fan aujourd'hui. Il y aura un CD dans ma boutique pour l'instant. c'est un peu la Mylène Farmer du Japon. Et du coup, on va dire que la K-pop, bah, c'est pas Psy, Gangnam Style qui m'a le plus marqué, même si c'est vraiment la chanson qui avait fait au niveau international, qui avait beaucoup marché. C'est Tuni One, le groupe 2NE1, qui est un groupe de 4 filles, si je me trompe pas. Et en fait, il y avait un clip avec des chiens dedans et c'était des filles assez badass, justement. Et je me dis, tiens, ça, c'est sympa, ça. Le refrain, ça faisait ratata, enfin, un terme un peu standard que tout le monde pourrait chanter. Et je me souviens que j'avais beaucoup aimé cette chanson-là et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à d'autres groupes de K-pop. Avant que ça explose vraiment. Disons que après Psy, 2NE1, c'était les premiers girls groups avec Girls' Generation et d'autres groupes comme ça. Et ça fait vraiment c'est les groupes d'après qui ont vraiment explosé à l'international, dont Blackpink qu'on vient d'écouter.
Et pour parler un petit peu de ta reconversion, parce que toi avant tu étais dans le marketing, comment ça s'est passé? D'où t'es venue l'idée de créer un concept store basé sur la musique?
En fait, donc j'ai bossé pendant 10 ans sur Paris dans les études de marché. Je suis revenu sur Angers pour des raisons personnelles, un projet d'adoption pour faire simple. Et j'ai travaillé à la Chambre de commerce et d'industrie, trouvé un travail là-bas, toujours dans les études de marché, donc je faisais toujours ce qui me plaisait et ce qui m'intéressait. Je conseillais les entreprises du département sur les études de marché, comment faire des questionnaires, etc. Et puis je voyais bien que à la CCI c'était hyper intéressant de voir plein d'entreprises, mais finalement il manquait quelque chose. J'avais envie de m'ouvrir à autre chose. La CCI, on voit plein d'entrepreneurs, des gens qui créent des sociétés, et je me suis dit, finalement, pourquoi moi je pourrais pas faire aussi quelque chose? Et ma première passion, c'est la musique. Je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose dans la musique? Et un jour, j'avais dit à une amie, il y a 5-6 ans, mon boulot de rêve, ce serait disquaire. Et je me suis dit, pourquoi pas réfléchir à ouvrir justement une boutique de type disquaire. Et puis, vu que les vinyles reviennent à la mode, la K-pop marche pas mal et c'est en grosse partie ce que j'écoute. Je me suis dit, essayer d'allier tout ça. Et j'ai pas fait un magasin que de K-pop parce que sur Angers, ce serait quand même très restrictif et il y a pas non plus, il y a des fans de K-pop mais ils sont pas non plus des milliers. Et j'écoute pas que de la K-pop, j'écoute aussi beaucoup de choses, de Clara Luciani, de Lady Gaga, du Dua Lipa, etc. Donc je me suis dit, faire un lieu dédié qui me représente, ce serait pas plus mal. Et c'est vraiment la CCI qui m'a montré qu'on pouvait être accompagné et qu'on pouvait avoir des gens qui nous aident pour créer et que finalement, c'est faisable. C'est pas simple, mais c'est faisable. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi, je me lance. Et ça fait du coup qu'au bout d'un an, j'ai réussi j'ouvre Popit samedi. Donc c'est...
Et venir du marketing, ça t'a aidé pour créer ton concept store du coup?
Totalement. Le marketing, ça m'a permis d'avoir les idées assez claires. J'ai sorti un logo assez rapidement. Alors, j'ai pas fait totalement tout seul. J'ai des amis qui m'ont aidé. Des couleurs assez précises, un nom pop hit qui reprend vraiment le thème de la musique pour que ce soit clair, compréhensif, que tout le monde sache ce que je vais vendre. Et le marketing, ça m'a aidé finalement à tout ça, à essayer d'être le plus clair possible pour les gens, d'avoir un objet, enfin un produit qui est très marqué, qu'on reconnaît, donc couleur noire et jaune. Le marketing, ça m'a aidé à tout ça, pour avoir les idées claires, faire quelque chose de clair et qui normalement parle aux gens. Et j'ai même une ancienne collègue, quand elle a vu mon logo, elle m'a dit « Attends, me dis pas ce que tu vas faire, je vais te le dire. » Et elle m'a dit « Ah, tu vas vendre de la musique sur des trucs internationaux. » Bah, exactement.
Peut-être un mot sur les partenaires, parce que tu t'évoquais tout à l'heure le fait de pas être tout seul aussi à ce niveau-là. Qui te soutient en fait, Antoine?
Ouais, la Cécile m'a pas mal aidé dans mon projet. Mes anciens collègues, du coup, sont devenus mes conseillers, entre guillemets, notamment la CCI. Après, j'ai une subvention du Centre National de la Musique qui aide à la création de disquaires ou aussi aux nouveaux aménagements de disquaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, c'est les banques Initiative Anjou qui me fait un prêt aussi titre personnel pour pouvoir m'aider. Parce qu'il faut quand même un petit peu d'apport pour pouvoir créer un concept comme celui-là.
Et le fait de faire de ta passion, donc la musique, un business, est-ce que ça t'a pas fait peur?
Alors si, un peu, puis je stresse encore aujourd'hui à me dire, voilà, là, j'ouvre samedi, comment ça va se passer. Mais en soi, je l'ai vu vraiment comme du management de projet, et le marketing, ça m'a aidé à ça aussi. Il y a des étapes à faire, faut aller voir les banques, faut gérer les livraisons, faut contacter les fournisseurs, faut acheter du matériel, etc. Il y a des dates, de la communication aussi, parce que quand on est gérant, on fait vraiment tout de A à Z, et vu que j'ai des partenaires, mais en soi, je suis tout seul sur mon projet. Du coup, ça fait un peu peur, mais finalement, grâce au background que j'avais, au marketing, je gère ça comme un management de projet. Et puis, il y a des petits trucs qui prennent du retard, mais c'est pas grave. Là, pour mon ouverture, j'espère avoir toutes mes livraisons, mais il y a des doutes sur un ou deux par prestataire. Bon, on verra. Et si je les ai pas, c'est pas si grave. Ils arriveront quelques jours après. Mais bon, c'est un peu stressant, mais ça se fait.
Et toi, où tu te vois dans 2 ans plus tard? Par la suite.
2 ans, je pense que je serai encore chez Popit, sûrement tout seul à gérer mon business, en espérant que ça fonctionne bien, que j'arrive vraiment à trouver des gens que ça intéresse, et même moi, on continue à découvrir, parce que je connais pas tous les artistes, il en existe plein dans le monde entier. Après, ce que je voudrais peut-être élargir, c'est vraiment la musique allemande, espagnole, italienne, où je vais avoir quelques références dès samedi, mais il faut vraiment que je creuse plus le sujet. Il y a des artistes qui remplissent des stades en Italie et on les connaît pas chez nous. Pourquoi? Ils sont juste à côté. Enfin bref. Donc 2 ans, je pense, c'est juste continuer à élargir un peu ce que j'ai en magasin et réussir à avoir vraiment du monde qui vient. Et après, si je peux, peut-être plus tard ouvrir d'autres pop-its dans d'autres petites villes, en plutôt petites villes, centre-ville. C'est un peu ma philosophie de rester là-dedans.
Je le sentais venir, le coup de la franchise, de la succursale,
ouais,
pop-it.
C'est pas l'objectif initial, mais bon.
Pourquoi pas?
Le vrai rêve, si jamais je vais jusque-là, c'est d'ouvrir des pop-it dans d'autres pays et pour pouvoir se faire des échanges mutuels entre des...
Comme les Hard Rock Coffee, c'est ça?
Ouais, un peu, ouais, exactement. Et puis pouvoir, si j'ai un pop-it en Italie, justement, commander les CD italiens qui marchent bien là-bas, pouvoir les emmener en France à Angers et faire l'inverse...
On se tiendra au courant.
Ce serait l'objectif, mais bon.
On va déjà se tenir au courant pour le 19 octobre. Popit qui ouvre aux 6 rue des Lys. Antoine Champion, son créateur fondateur en cours, parce que ça va arriver incessamment sous peu, est avec nous ce soir dans Topette. Tu restes avec nous, on donnera les infos pratiques dans quelques instants en fin d'émission. On va faire un petit détour par le podcast des SISM. C'est le numéro 5 sur 9. Et on revient juste après.
En mouvement malgré la contrainte, un texte écrit par Joséphine Régnier, psychologue en milieu carcéral.
Est-ce que c'est possible de se mettre en mouvement alors même que l'on est privé de sa liberté? Quel mouvement est possible quand on vit à 2 ou 3 dans moins de 9 mètres carrés, 22 heures sur 24, quand on ne décide pas de l'heure à laquelle on se réveille, on se douche, on mange? Quand c'est un autre qui décide pour soi? Cette absence de choix, c'est ce à quoi sont confrontées les personnes incarcérées. Les mouvements, c'est comme ça d'ailleurs que l'on appelle leurs allées venues. La promenade, le début du travail, des activités. Autant de mouvements ritualisés auxquels ils peuvent choisir de participer ou pas, choisir de suivre le mouvement, le rythme de l'enfermement. Car l'incarcération nous fait changer de rythme. Le temps en prison est plus long, différent, comme à côté du reste du monde, où les choses vont toujours trop vite. Mais alors, comment se mettre en mouvement dans un milieu contraint ? Par le mouvement physique d'abord, le sport. Le sport, c'est une des pierres angulaires de la détention. On le pratique en cours collectif, en cellule, en promenade. Foot, basket, boxe, musculation, yoga sont les plus fréquents. 2 heures par jour pour rompre l'inactivité, pour faire passer le temps. Je pense alors aux moniteurs de sport, ces surveillants pénitentiaires qui ont reçu une formation spécifique et dont le profil rappelle celui d'un éducateur de rue. Leur place et leur fonction est particulièrement importante. Le mouvement, c'est aussi le sujet du soin. Soigné par le mouvement physique, c'est par exemple l'outil du kiné. Il réhabilite, permet à ses corps de rebouger, de guérir, de reconnecter le corps et le psychique. Ne dit-on pas un esprit sain dans un corps sain ? Mais alors quel est l'œuf et quelle est la poule ? Soigné par le mouvement psychique aussi, grâce à la psychothérapie. Apporter flexibilité, mobilité à nos façons de percevoir les choses, le monde, les autres. Remettre en question ses fonctionnements, ses croyances, ses pensées, ses émotions. D'ailleurs, émotion vient du latin emovere, qui signifie se mettre en mouvement. C'est parce que je suis joyeux que je prends l'autre dans les bras, que je me tourne vers ce que j'aime pour partager ce moment. C'est parce que je suis en colère que je m'indigne des injustices, des inégalités, et que je me mets alors en mouvement pour lutter. L'émotion est essentielle, elle est constitutive de nos vies d'êtres humains. La mise en mouvement par une étincelle intérieure donc. Étincelle que l'on perd dans des maladies comme la dépression. Perdre contact avec ses émotions, perdre le plaisir et la motivation. Une sorte d'arrêt du processus de mouvement psychique interne. Le soin en psychiatrie, plus que la contention, c'est aussi et surtout apporter le mouvement. Empêcher les entraves d'une maladie ou d'un trouble de nous isoler de soi, des autres. Maintenir le lien, toujours. Le mouvement, toujours. Psychique, physique, social. Et le mouvement se fait aussi du côté du thérapeute. Ce que nous disent nos patients nous émeut, nous surprend, nous indigne, nous questionne. C'est en se mettant en mouvement que l'on avance vers l'autre, dans cette perspective d'aller vers les gens, parfois pour la première fois dans leur parcours. Le mouvement, quand on est privé de sa liberté, c'est une des dernières choses qu'il nous reste. C'est à la fois ce que l'on peut perdre et ce que l'on peut gagner. Perdre ma liberté d'aller venir, peut-être, mais je peux choisir de me mettre en mouvement. Vers l'extérieur, vers le monde, les autres. Vers l'intérieur aussi, vers soi, pour mieux se connaître, ce qui est important pour soi. Découvrir sa boussole intérieure, celle qui nous guidera, celle qui nous donnera l'envie. Alors, à toutes ces mises en mouvement, à tous ces patients qui ont fait surgir la lumière en eux, à toutes ces personnes qui laissent entrer un inconnu dans leur intimité, qui ouvrent les portes, parfois timidement, parfois à grand fracas. C'est pour toutes ces personnes qu'on est là.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Il était venu dans l'émission, c'était en juin 2023, souvenez-vous-en, William à vélo, qui entamait tout juste, qui allait commencer son world road trip à vélo, son world bike road trip, et du coup, bah, on est en octobre 2024, ça a dû bien avancer depuis. Bonsoir William.
Bonsoir.
Alors, comment vas-tu depuis tout ce temps-là? Ça pédale un peu?
Ça pédale un peu. Là, actuellement, je suis au Tadjikistan, à Korog, exactement. Et je m'apprête à rentrer. Donc là, je suis actuellement à 2100 mètres d'altitude et je m'apprête à continuer ma route sur la Pamir Highway. C'est une route très connue des cyclistes, notamment en France, qui globalement traverse en fait la route de la soie et qui monte jusqu'à 4300 mètres au minimum. Donc voilà.
Ouais, ça va grimper. T'as pas d'assistance électrique, c'est important de le rappeler.
Non, pas du tout. Okay.
Est-ce que d'ailleurs tu peux aussi nous rappeler, s'il te plaît, le pourquoi tu t'es lancé dans ce world road trip à vélo? C'est quoi le projet en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire tout ça?
Alors à la base, le leitmotiv était de rouler pour une cause, on va dire associative, mais disons que le projet évolué, c'est plus pour un projet personnel, on va dire, de découvrir le monde, d'être très curieux et avoir une certaine ouverture d'esprit. Parce que voilà, il y a eu beaucoup d'événements personnels qui ont un peu bousculé ça. Et du coup, j'ai dû reporter un peu mon road trip. Je l'ai déplacé de 6 mois. Donc, je suis parti en avril 2024. Mais pour une cause plutôt personnelle, du coup, maintenant.
T'as déjà une date ou pas de rentrée de prévue, ou pour l'instant tu te laisses plutôt porter
pas
par...
du tout. Pas du tout. Pour le moment, je me laisse porter par les pays, les découvertes. Le but pour moi actuellement, donc là, je suis quasiment. Moi, je parle en termes d'étapes. J'aime pas trop parler en termes de destination, mais j'ai en ligne de mire du coup prochaine après cette route là que je vais faire la Pamir Highway, je vais aller en Chine pour traverser la Chine à vélo, justement, vu que j'ai un visa touristique qui me permet de rester plus longtemps que les 15 jours gratuits qu'on peut avoir avec nos passeports. Donc le but, c'est de traverser la Chine à vélo, prendre un ferry et ensuite aller en Corée du Sud, donc traverser une partie de la Corée du Sud, et ensuite reprendre un ferry pour arriver au Japon et justement prendre 3 mois justement au Japon pour voyager à vélo tranquillement.
Bon, le but reste quand même de peut-être faire le tour du monde en entier, de repasser par les États-Unis derrière et de revenir par la Bretagne ou par là, ou peut-être même faire un tour en Afrique. Plutôt que de parler de ce qui t'attend, puisque du coup on aura le temps de reprendre des nouvelles d'ici là, William, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui a été marquant jusque là sur les premiers mois, les premières semaines? Qu'est-ce qui a été dur, qu'est-ce qui a été agréable, surprenant aussi, peut-être des souvenirs, des anecdotes?
Alors c'est vrai que moi j'ai commencé au printemps, donc il faisait pas trop froid, donc c'était assez on va dire favorable. Après je suis parti pas exactement d'Angers, parce que j'étais déjà parti d'Angers, mais pour faire parce que j'avais besoin de trouver un autre taf, j'avais besoin de trouver une autre situation. Et je suis parti de Val d'Isère exactement à vélo, et les débuts étaient un peu, on va dire, houleux, dans le sens où faut traverser les Alpes, une partie des Alpes, pour aller en Italie, donc ça a été assez fatigant dès le début, mais très vite ça m'a permis de pouvoir m'adapter et d'être en condition globalement. Et déjà on est aussi confronté à un certain mode de vie qui est différent, c'est-à-dire que les gens sont assez en dehors de la France, en tout cas en Europe, ils ne connaissent pas trop ce mode de vie de voyage, et du coup ça peut surprendre. Moi, les choses qui m'ont surpris le plus, c'est surtout le fait que quand j'essaie de communiquer avec les gens, des fois les gens quand même faisaient en sorte d'aider le plus souvent du temps, quand ils pouvaient pas ils pouvaient pas. Donc il y avait ce côté-là. Après, on retrouve beaucoup ce côté individualiste qu'on peut voir en Europe, dans certains pays. Parce que moi, je suis passé, du coup, pour retracer un petit peu, je suis passé par l'Italie, j'ai fait la Slovénie, qui est un très bon pays pour faire du vélo. Enfin, il y a des infrastructures à Ljubljana qui est très 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 bonne. Moi, c'est la capitale où je me suis senti le plus à l'aise à vélo, en tout cas, pour rejoindre la Croatie. Ensuite, la Croatie, je suis descendu, j'ai longé toute la côte sud pour rejoindre l'Albanie. Donc, il y avait le Monténégro et une partie de la Bosnie-Herzégovine, puis l'Albanie. Et ensuite, pour aller en Grèce. Et après la Grèce, j'ai rejoint la Turquie. Et du coup, en Turquie, j'ai vraiment tracé au milieu de la Turquie, vraiment. Pour après, j'ai eu un petit imprévu à ce moment-là. J'ai cassé mon téléphone à ce moment-là, donc... je ne pouvais pas le réparer en Turquie, donc j'ai été 2 semaines sans pouvoir vraiment communiquer avec mes proches ou quoi. Donc ça a été un peu à la fois une délivrance, parce que t'es coupé un peu du monde socialement parlant, mais en même temps tu rencontres d'autres personnes avec qui tu peux essayer de trouver des solutions. Et du coup, je suis allé en Géorgie où j'ai pu réparer mon téléphone, et en même temps je suis tombé malade. Donc vu qu'on n'avait pas de contrainte de visa en Géorgie, j'ai eu le temps de tomber malade pendant 2 semaines. Donc c'était un luxe. Enfin, c'est là où on se rend compte que quand on a du temps, en fait, on peut faire beaucoup de choses, notamment réparer les imprévus, on va dire, et surtout rencontrer les personnes et prendre du temps pour soi, pour se remettre en question, prendre des pauses aussi, parce que quand on enchaîne les kilomètres, quand on enchaîne certains cols qui peuvent monter assez haut, et c'est assez important de pouvoir prendre des pauses. On se l'accorde pas forcément au début, mais avec les kilomètres sous la pédale, et on se l'autorise un peu plus souvent. Et du coup, après la Géorgie, j'ai traversé l'Arménie. Bien sûr, en allant, j'avais fait mes demandes de visa, parce que ensuite je suis passé en Iran. J'ai traversé une partie de l'Iran où je sais que c'était pendant la période où il y a eu une petite période d'escalade entre Israël et l'Iran, mais au final ça s'est très bien passé quand même. où j'ai rencontré, c'est là où j'ai rencontré le plus de voyageurs en Iran, à vélo, en tout cas. En fait, à partir du moment où on quitte l'Europe, on a vraiment une autre approche avec les gens. Les gens sont beaucoup plus accueillants. Ils vont être plus spontanés pour nous inviter à dormir chez l'habitant ou proposer de l'aide. Et du coup, après l'Iran, je m'étais posé la question de par où je passais parce que il y avait rien de fixé. Mais normalement, je voulais passer par le Pakistan. Et au final, ça s'est pas fait comme ça. Au final, j'ai pris un visa à Téhéran pour aller en Afghanistan. Du coup, j'ai traversé une partie de l'Afghanistan en vélo, pas totalement parce que j'avais pas beaucoup d'informations avec les routes et enfin là sur structurellement comment c'était. Mais j'ai pas traversé tout seul. J'ai traversé avec deux autres voyageurs en vélo, un Irlandais et un Allemand. Et du coup, c'était pour moi, c'est un des pays, enfin en tout cas, l'Iran et l'Afghanistan, c'est un des pays où, comment dire, l'expérience voyageur était très intense, très fatigante, mais très positive et intense dans certains cas. Bon, après voilà, j'étais aussi face à la pauvreté, donc c'est assez, ça remet en cause beaucoup de choses personnellement. Et ensuite, je me suis dit, vu que je peux passer par le Pakistan et que de toute manière je peux que passer par le Tadjikistan pour rejoindre la Chine, parce que c'était le plus simple, parce que, enfin, en tout cas d'un point de vue sécurité et autres, c'était le plus simple. Du coup, j'ai décidé d'aller au Tadjikistan et aussi justement de traverser cette fameuse route qui est assez haute, la Pamir Highway. Et puis aussi, j'ai pu rencontrer des voyageurs à Dushanbe qui sont là, quoi. Même si là c'est la fin de la saison entre guillemets de cette traversée de cette route là, parce qu'on arrive à l'hiver bientôt, et globalement voilà, ça se passe plutôt très bien.
Ça a presque l'air simple raconté comme ça, mais évidemment c'est très éprouvant, c'est des longues semaines et tout. Alors il en reste encore beaucoup, on va laisser un petit peu de suspense, hein. Tu reviendras dans l'émission bien évidemment pour nous faire un nouveau point d'étape que tu seras en Chine peut-être ou près d'arriver au Japon. Est-ce que déjà, première question, est-ce qu'on peut te suivre, est-ce que tu actualises quelque part les endroits par où tu passes, et deuxièmement, est-ce que tu sais ce que tu vas faire de tout ça derrière, peut-être une, je sais pas, un podcast, une vidéo, un témoignage?
Alors déjà, à la base, j'avais essayé de faire des vidéos avant de partir en voyage, mais je trouvais que c'était beaucoup trop long et c'était une charge mentale trop importante pour moi. Donc, en fait, on peut me suivre sur Polar Step. C'est une application qui est un carnet de voyage où en fait on peut poster on fait des posts où on met des photos, des vidéos et on met un peu notre résumé de notre journée. Que moi, j'essaie je poste tous les jours quand je roule et ça s'actualise au fur et à mesure, et du coup c'est un tracker, donc ça veut dire que en fait l'application nous traque sur par où on est passé, où est-ce qu'on s'arrête, et enfin là quoi. Et du coup les gens peuvent s'abonner, enfin c'est totalement gratuit, il y a pas de, enfin là quoi, il faut juste s'inscrire, enfin faut juste donner quelques coordonnées, une adresse mail. Et enfin là, donc ça se fait très facilement, mais ça permet justement de suivre la personne et puis justement de se rendre compte de ce qu'elle peut vivre, de ce qu'elle peut faire. Et donc je publie notamment sur ça. Après, comment dire, voilà, ça reste un seul moyen pour le moment que j'ai de publier, parce que faut pas oublier que entre voyager et retranscrire et transmettre après, ça demande tellement d'énergie que moi je voulais surtout me concentrer sur le fait de partager du temps et découvrir vraiment certaines cultures, être en immersion, parce que si je commence à prendre beaucoup plus de temps à produire sans profiter et sans comprendre ce que je suis en train de vivre, c'est assez difficile à retranscrire. Donc pour le moment c'est le seul moyen de poste que j'ai. Et pour répondre à ta deuxième question, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire de ce voyage, si je vais le produire, si je vais en faire un livre, si je vais en faire un film, si je vais en faire des conférences, ou je ne sais pas. Pour le moment, je suis encore dans la découverte dans l'immersion, et je prendrai un temps, notamment, je pense, sans Corée du Sud, sans Japon, j'espère, je sais pas encore, hein, je me projette, mais sans trop savoir, sur qu'est-ce que je vais faire de ce fameux voyage. Mais en tout cas, si on veut me retrouver, sur Polarstep, on faut juste taper William Méchin. Enfin, Méchin, c'est écrit M-E-C-H-I-N, tout en minuscule, et vous allez voir, en fait, il y aurait écrit... Enfin, on peut me trouver, et du coup, je serai en voyage actuellement. Il y a écrit... Enfin, le nom de mon voyage, c'est Road Trip à vélo. Donc, voilà.
Eh bien, merci beaucoup, William. On va pas te retenir plus longtemps. Voilà, on va te laisser te préparer, profiter, savourer de chaque instant de ce voyage. Et puis, bah, on se dit au prochain point d'étape, alors.
Topette, sur Radio G. Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Encore une fois. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Bah, Topette, 18h, bientôt 18h50, bientôt 19h, l'heure de manger ou d'écouter de la musique. C'est, on parle pas de nourriture ce soir dans Topette, on n'a pas parlé de nourriture, mais bien de musique actuelle avec Antoine Champion qui ouvre son concept store nommé Pop Hit, avec le H bien expiré. Ça ouvre du coup ce samedi, c'est samedi Antoine, c'est ça hein?
Exactement, samedi 19 octobre, dès 11h. Jusqu'à 19h, toute la journée.
Toute la journée. Alors, si vous prenez l'émission en cours de route, on vous invite à réécouter le début du podcast, aller sur le site internet, bien évidemment. Mais il n'est pas encore trop tard. Les infos utiles et pratiques pour découvrir tout ça. Est-ce qu'il y a déjà un Instagram, Antoine? Est-ce qu'il y a un site internet?
Ouais.
Qu'est-ce qui est important de retenir? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, une première grande date en plus de l'inauguration?
Alors, je suis un peu en retard sur le site internet. Donc, pour l'instant, c'est vraiment les réseaux sociaux qui sont à jour. Réseaux sociaux Facebook, Insta, et j'ai un TikTok aussi. Insta c'est Pop Hit Angers avec des underscores entre Pop Hit et Angers. Sur Facebook c'est tout attaché Pop Hit Angers, et sur TikTok c'est une autre chaîne où je partage des artistes du monde entier. Si vous voulez mettre à jour votre playlist Spotify, voilà, il y a plein d'exemples, et c'est Pop Hit Découverte ça s'appelle.
Et l'artiste ou le band du moment que tu recommandes toi, ce serait lequel?
Ouh là là, j'ai pas préparé ça, mais en ce moment je suis à fond sur Kylie Minogue. Alors c'est pas du tout, elle ressort un album la semaine prochaine. Mais sinon, peut-être en plus petit, il y a Mathieu que j'aime bien, Mathieu de TYEX, qui vient de sortir un album qui est plutôt pas mal, un peu de l'électropop calme.
Et des goodies et tout ça, et les CD, et les vinyles, et puis les clips qui vont tourner, et puis les dates de concert. En fait, musique actuelle, c'est vraiment un pop-it que ça va se passer désormais. C'est Yael, ça. Je te laisse t'emparer du micro. T'as découvert en même temps que nous ce soir ce qu'était pop-it. T'en penses quoi du coup de ce concept store que tu découvres?
Eh ben, je ne connaissais pas du tout, mais ça a l'air super sympa. Pourquoi pas aller faire un petit tour ce week-end?
C'est plutôt K-pop ou J-pop toi?
Eh ben, je ne connaissais pas du tout la J-pop. Donc,
elle est S-pop. Elle écoute, t'écoutes quoi toi?
J'écoute un peu de tout, rap français, pop culture, un peu de tout ça.
Rap français, c'est pareil, ça pourrait être un sacré débat, parce que je sais pas quel artiste tu écoutes précisément, mais c'est peut-être pas les mêmes qu'on a en tête. Merci beaucoup en tout cas Antoine, on te dit merde pour la journée d'inauguration, et puis nous on passera peut-être faire un petit tour du côté de Topette. Nolwenn, on se retrouve demain, nous aussi?
Oui, demain avec le CCJC.
Oui, et on va aussi parler de terraformation. Alors c'est pas tout à fait gay, ça parle de la manière dont on peut décomposer les corps, les cadavres humains après, plutôt que se faire incinérer ou enterrer. Bah, il y a une troisième option qui s'ouvre à nous, et on en parlera avec un maître de conférence. Il y aura une date aussi de prévue. Topette qui se quitte, on se quitte avec Pensée Locale, et on s'intéresse à la nef ce soir. Prenez soin de vous, à demain, 18h10. Et Topette, Topette Nolwenn.
Topette.
Topette.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Le brassage social, c'est le slogan revendiqué par Tête Haute, entreprise d'insertion du pays nantais qui s'est lancée dans la fabrication de bières locales, bio et solidaires en 2018. 5 ans plus tard, la brasserie compte désormais près de 25 salariés et a ouvert un tiers-lieu surnommé le Tipeee, au Cellier entre Nantes et Ancenis. Tête Haute a aussi soutenu la création d'un tout nouveau bar-restaurant à Nantes, Mashup.
Donc je suis Julien Grébi, je suis le directeur de Mashup. C'est situé sur l'île de Nantes, juste derrière la nef des machines à bière. Et c'est un brew pub, donc un restaurant dans lequel on va brasser de la bière, donc avec une petite brasserie de 500 litres qui est dans le lieu. Et puis aussi la bière, les bières de la brasserie Tête Haute qui a fait naître le projet Mashup, toujours en portant cet enjeu d'insertion, donc d'accompagner les gens qui sont éloignés de l'emploi et de démontrer aussi que l'inemployabilité, c'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose qu'on peut abattre par justement l'accompagnement social et collectif. Mashup aujourd'hui, c'est une dizaine de salariés, dont 4 en insertion par l'activité économique. 90% de nos produits qui sont produits à moins de 100 km du restaurant, dans des conditions d'agriculture biologique et ou en transition ou raisonnée. Et Mashup a cette particularité d'être à la fois un lieu de transition pour l'emploi, mais aussi d'être un lieu de transition pour la manière dont on pense la restauration aujourd'hui et la manière dont on forme des cuisiniers et des serveurs à l'alimentation de demain. Alors en ce moment, on va travailler un rougail saucisse qui est fait avec une saucisse de la ferme du Bois Suzin, et ainsi que un risotto avec des petites pleurotes qui sont à la champignonnière du champignon urbain qui est à l'agronote à 100 mètres d'ici.
Tu veux pas carte, tu veux pas ? Non, pas carte, merci.
C'est bon ? C'est bon. Bien, merci d'être passé.
Si un projet comme Mashup a pu voir le jour, c'est entre autres parce qu'il a bénéficié du soutien d'une banque pas comme les autres, la NEF. Cette coopérative a apporté 37% du financement initial et s'engage, elle aussi, dans une démarche éthique et locale.
Alors, du coup, moi, c'est Marine Lemoine et je suis banquière itinérante à la NEF. C'est une banque qu'on dit éthique parce que son objet, depuis la création, il y a 36 ans maintenant, était de faire le lien entre l'épargne des citoyens et citoyennes et des projets ancrés dans la transition écologique, sociétale et environnementale. Plutôt des circuits courts, ça va être plutôt là-dessus, dans le fait de privilégier des projets qui ont cette démarche de pensée locale dans leur fonctionnement.
La NEF compte désormais 48 000 sociétaires et 120 salariés. Depuis sa création en 1986, la coopérative de finances solidaires a prêté près de 1,4 milliard d'euros et soutenu 8 000 projets, dont les célèbres magasins Biocoop, Basket Veja ou Café Étiquable. Dans les Pays de la Loire, la NEF revendique actuellement près de 70 millions d'euros d'encours et soutient des projets aussi divers que l'unité de méthanisation Métamauge dans le Maine-et-Loire, le café associatif 3 francs 6 sous au Pèlerin ou encore des entreprises d'insertion comme Mashup à Nantes.
La NEF soutient une vingtaine de projets à peu près sur les Pays de la Loire. Prioritairement, on est quand même sur la Loire-Atlantique, l'Anjou, Maine-et-Loire et la Vendée. Le montant minimum d'intervention pour la NEF, c'est 15 000 euros. Et en maximum, c'est plusieurs millions d'euros. Le montant moyen, je pense que c'est 150 000. Les épargnants des Pays de la Loire, finalement, leur épargne va aller dans un grand pot national. Donc on n'est pas à l'euro près quand même au niveau local, mais en fait, on a sur le site une vision en direct de ce qui est financé par la NEF. Puis aussi, sur le long terme, la spécificité qu'on peut avoir à la NEF, c'est de mettre en lien les sociétaires et les projets. Là, on va organiser en octobre une rando NEF, donc on va un peu visiter plusieurs sites financés par la NEF, dont Mashup. On va venir manger ensemble avec les sociétaires pour mettre en lien, pour boucler la boucle.
La NEF se prépare désormais à un grand changement d'échelle. La coopérative d'épargnants et de crédit a en effet reçu en septembre l'aval des autorités françaises et européennes pour devenir une banque à part entière. La NEF, qui s'appuyait jusqu'à présent sur le crédit coopératif, lui-même adossé au groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, va donc s'émanciper et proposer directement des cartes de crédit et comptes courants en particulier ces toutes prochaines années. Et cette alternative bancaire est loin d'être anecdotique. Toujours selon le cabinet Carbone 4, les comptes courants des Français représentent 800 milliards de dollars et ces sommes peuvent être utilisées par les banques pour soutenir des projets d'énergie fossile. Et elles ne s'en privent pas. Entre 2021 et 2023, les banques françaises y ont consacré près de 67 milliards de dollars. Dans ce contexte, la finance éthique s'affirme donc comme l'un des 4 principaux leviers à disposition des individus pour favoriser la transition écologique.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Jet FM.
C'est tout.